D'abord, un petit rappel méthodologique avant que je vous présente le premier orateur de la journée. Le milieu scientifique sur lequel nous travaillons, enfin le domaine scientifique plus exactement, sur lequel nous travaillons est, comment dire, partagé en courants divers qui parfois peuvent s'opposer assez violemment. Ce qui fait parfois d'ailleurs le délice d'une certaine presse. Alors, de toute façon, indépendamment des querelles de chercheurs, il y a aussi l'intérêt de faire venir des acteurs à différents niveaux. Et certains acteurs nous apprennent plus que certains chercheurs, parfois par leur inconscient, par leur déclaration péremptoire, et autres parce qu'ils parlent le véritable langage des objets d'études, alors qu'en général, les chercheurs ont tendance à euphémiser, comme on dit, les discours des acteurs. Donc ça, c'est un point de vue, point de méthodologie générale, parce que certaines personnes m'avaient fait des remarques, et je leur réponds que les acteurs sont parfois plus intéressants que... les chercheurs. Mais ce n'est pas le cas avec notre chercheur d'aujourd'hui.
Là, ça commence bien.
Pierre-Jean Luisard est, comment dire, un ami de 40 ans.
Pas plus.
Même un peu plus, oui, plus de 40 ans. Donc, on a passé la limite fatidique des 30 ans. Notre amitié s'est préservée. J'ai toujours une formidable admiration pour le travail qu'il a fait sur l'Irak. Et à la fois en arrière, puisqu'il a pris l'Irak jusqu'au début du XXe siècle dans sa thèse, et il suit toujours l'actualité irakienne jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc l'Irak et son terrain de chasse, d'opinion, d'analyse, etc. Et c'est à partir de l'Irak qu'il va nous parler aujourd'hui. Pierre-Jean, c'est à toi.
Merci Henri. Effectivement, il faudra que je recalcule depuis notre première rencontre, mais je crois que ça fait quand même un petit peu plus de 30 ans. 40 ans. On va voir, je vais recalculer. Bonjour et merci à tous pour votre présence. Avant toute chose, je voudrais... exprimer ici un sentiment de solidarité avec deux de nos collègues. Vous voyez tout de suite de qui je veux parler, de Fariba Adelkha et de Roland Marshall, qui sont retenus injustement pour des raisons fallacieuses en Iran et qui doivent passer devant un tribunal réputés pour être proches des gardiens de la Révolution qui sont ce qu'ils sont et qui ne garantissent pas une justice égale pour tous. Et nous savons par ailleurs que Fariba a eu des gros problèmes de santé à la suite de la grève de la faim qu'elle a entamée et qu'elle a été obligée d'arrêter. Et qu'elle a été hospitalisée, notamment pour une insuffisance rénale qui est directement due à sa grève de la faim. Donc, ils passeront en procès le mardi 3 mars. Je crois qu'il y a un certain nombre de manifestations prévues. Et voilà, que nous y associons. On va s'y associer si on a le temps, si on n'a pas le temps. Une pensée pour eux, je crois, sera déjà quelque chose d'important. Alors, je vais pour ma part vous parler d'un sujet qui est à la fois historique et d'actualité brûlante, puisqu'il s'agit d'une institution qui s'appelle l'État irakien et qui est une institution qui, au Moyen-Orient, a probablement la palme en termes de répression intérieure, de guerre intérieure et de guerre extérieure, au point qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est un État qui a été construit contre sa société dès le moment de sa fondation. Donc je rappelle les circonstances de la fondation de l'État irakien. L'État irakien est issu d'une institution proclamée en 1920 par le représentant britannique à Bagdad, Sir Percy Cox. Il s'agissait d'une institution qui s'appelait gouvernement à visage ou à façade arabe. Donc déjà dans la formulation, on voyait qu'il y avait un appel du pied à une forme d'identité nationale, nationaliste arabe, et que cette identité était exprimée à travers une façade ou un visage, ce qui pouvait suggérer que le véritable pouvoir se situait ailleurs, ce qui était bien le cas. Et donc, en fait, les Britanniques ont fondé, de façon simultanée avec les Français en Syrie et au Liban, des institutions étatiques sous la forme d'État-nation sur le modèle européen. Il faut rappeler qu'on est au sortir de la Première Guerre mondiale dans une Europe où triomphe l'idée d'État-nation et l'idée selon laquelle la nation est la source première, la nation ethnique notamment, est la source première de toute légitimité. Donc un État-nation sur le modèle européen, sur des provinces mésopotamiennes. Je rappelle que l'Irak était à l'époque divisé en trois provinces, au nord Mossoul, au centre Bagdad, au sud Bassora, donc des provinces mésopotamiennes de l'Empire ottoman qui n'avaient jamais existé auparavant sous le nom d'Irak et, vous imaginez évidemment, dans les frontières qui lui étaient imparties. Je rappelle qu'en 1920, le Kurdistan et la partie arabe du vilayet de Mossoul ne faisaient pas partie de l'Irak. Il faudra attendre 1925 pour que la Société des Nations cède aux injonctions britanniques pour rattacher donc le vilayet de Mossoul au royaume arabe hachémite d'Irak contre la volonté exprimée à travers l'insurrection de Cheikh Mahmoud au Kurdistan d'être intégré à un État qui se définissait comme arabe. Donc, il faut rappeler que l'une des armes des puissances occidentales contre l'Empire ottoman, ça avait été de favoriser les nationalismes pour saper les fondements religieux de l'Empire ottoman. Je rappelle que l'Empire ottoman était le porte-drapeau de l'islam sunnite et qu'un certain nombre de communautés religieuses étaient reconnues. Notamment les communautés chrétiennes et juives, à l'exception, et ça n'est pas la moindre exception, des communautés issues de l'islam. De façon paradoxale, les chiites et les sunnites ne se reconnaissaient pas mutuellement. Les chiites majoritaires en Irak et arabes pour 95% d'entre eux considérait le sultan calife comme un usurpateur et en ce qui concerne les autorités religieuses ottomanes, elles ne reconnaissaient aucunement l'autorité religieuse des grands ayatollahs basés dans les villes saintes de Najaf et de Karbala en particulier. Donc un État qui s'est fondé à partir de notions qui était en Irak, et c'est là une différence avec le Levant, la Syrie, le Liban et l'Égypte, à partir de notions qui étaient pratiquement inconnues. Le nationalisme ethnique, il y avait évidemment des identités, une pyramide des identités locales, il y avait un fort sentiment d'arabité, al-uruba, mais absolument pas décliné sur un mode de nationalisme arabe, on ne savait pas ce que voulait dire un nationalisme ethnique, Et le nationalisme se limitait à quelques élites militaires, surtout de ceux qui, en Irak, avaient rejoint la révolte arabe du shérif Hussein, conduite par Faisal, et notamment parmi eux deux personnalités très connues en Irak, Ja'far el-Askari, qui va fonder en 1921 l'armée irakienne, et Nouri Saïd, qui va occuper le poste de Premier ministre à de multiples reprises, je crois une quinzaine de fois, sous le régime de la monarchie hachémite. Qu'est-ce qui fait que cette institution s'est effondrée en 2003 et qu'est-ce qui fait qu'elle est aujourd'hui à nouveau la source de conflits dans un contexte qui me fait dire qu'elle n'est pas réformable. Cela nous ramène à un système politique qui est directement lié à l'occupation étrangère, et ce système politique, il se nomme le confessionnalisme politique. Le confessionnalisme politique est quasi officiel, même si on sait que les textes n'ont pas valeur constitutionnelle au Liban, mais on remarque une très grande similitude entre les deux systèmes libanais et irakien, même si en Irak, le confessionnalisme politique est inavoué et même si il n'a jamais été revendiqué. Mais cela a été une réalité dès le début, avec la formation de l'État irakien, ce qui a suscité, je l'ai dit, une guerre quasi permanente entre l'État et sa société, et ce qui fait ressembler énormément les deux pays, Liban et Irak, dans la contestation actuelle du système en place et dans l'impossibilité d'en échapper pacifiquement. C'est l'une des tragédies que vit le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est qu'il est très facile de rentrer dans le confessionnalisme politique. Il est pratiquement impossible d'en sortir pacifiquement. Le confessionnalisme politique, je rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de la promotion à des postes gouvernementaux, officiels, administratifs, à tous les échelons de l'administration, non pas en fonction de votre couleur politique ou de vos mérites, mais en fonction de votre appartenance communautaire. Donc, comme vous le savez, l'Irak est divisé en trois grandes communautés, une majorité chiite qui est arabe dans son immense majorité, qui fait environ 56% de la population, le restant étant divisé à part égale entre une communauté sunnite, elle-même divisée d'un point de vue ethnique entre arabes et kurdes, à part relativement égale. Et ce qui fait ressembler les deux systèmes politiques qui sont à l'agonie, mais où les principaux protagonistes ne trouvent aucune solution politique, parce que ce sont des systèmes qui ont la capacité de phagocyter tous les acteurs, si bien que les sociétés civiles ne trouvent aucun moyen de traduire politiquement leurs revendications. Et bien, ces quatre phénomènes que l'on retrouve dans les deux pays et qui sont dénoncés par souvent des mêmes slogans qu'on retrouve à Beyrouth, comme à Bagdad, comme à Bassora. Il y a d'abord la corruption, que je nomme corruption par faute d'un autre mot, parce que la corruption suggère qu'il y aurait un état de droit et donc un contournement des règles de l'état de droit. Or là, en l'occurrence, il n'y a pas d'état de droit, mais il y a un état confessionnel qui utilise l'argent public, et surtout en Irak où l'argent public coule à flot avec le pétrole, pour des besoins privés. Bon, en Irak, où j'étais récemment, j'ai pu m'enquérir de la propriété de tel puits de pétrole dans le sud du pays à côté desquels je passais, et on m'a suggéré que c'était un puits qui avait été donné par l'ancien premier ministre à tel chef de tribu pour que, voilà, dans un réseau de clientélisme. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on appelle la corruption en Irak et au Liban, avec son corollaire, donc la faillite de l'État dans ses missions et de ses prérogatives régaliennes. Donc, comme vous le savez, à Beyrouth, ça s'est manifesté avec le début du mouvement contre le non-ramassage des ordures, et en Irak, contre les coupures d'électricité. Quand on pense qu'un quartier pauvre comme Madinat al-Sadr, qui rassemble plus d'un million d'habitants et qui est un véritable bidonville, n'a que quelques heures d'électricité, aucun ramassage d'ordures depuis des années, aucune eau potable au robinet, si bien que pour vous laver les dents ou pour boire un thé, il faut faire bouillir de l'eau. Voilà une faillite généralisée que le Liban connaît également de l'État, donc dont les finances sont distribuées dans des réseaux de népotisme et de corruption. Un troisième phénomène, c'est le doublement de l'armée officielle par un système milicien. Donc, comme vous le savez, une force militaire importante en Irak, qu'on qualifie à juste titre d'État dans l'État, est le Hezbollah et ses milices armées. Au Liban, nous avons donc un rapport de force intercommunautaire qui est très largement le produit des rivalités et des conflits entre ces milices. On retrouve la même chose en Irak avec un aspect quasi officiel à travers la fondation en 2014 de la mobilisation populaire, Al-Hashd al-Sha'bi en arabe, qui fédère toutes les milices chiites. À l'époque, elle répondait à l'appel du grand ayatollah Sistani au djihad contre l'avancée de Daesh vers Bagdad. Et on sait que ces milices ont été par la suite... donc ces milices qui sont directement formées et armées par les gardiens de la révolution iranienne ont été ensuite officiellement intégrées à l'armée, aux forces régulières irakiennes. Donc on voit que tout ceci a anéanti tout espace public et a rendu la société civile inopérante faute d'interlocuteurs. Une société civile ne peut pas prendre le pouvoir en tant que telle, puisqu'elle représente des intérêts particuliers, une constellation d'intérêts particuliers, et elle a besoin d'un rapport vertical avec un pouvoir politique qui, à un moment donné, va prendre en compte les revendications, souvent légitimes, donc d'une société civile, surtout lorsqu'elle est unifiée à travers des mots d'ordre, comme on l'a vu à Beyrouth et à Bagdad. Et un dernier aspect lié au confessionnalisme politique, c'est l'ingérence étrangère. Au Liban comme en Irak, l'ingérence étrangère a transformé ces deux pays en champ de bataille à divers moments entre des pays voisins rivaux et entre grandes puissances, si bien que l'absence d'espace public, l'absence de citoyenneté commune s'accompagne d'aggravation de la crise, puisqu'on se bat par Libanais et surtout par Irakiens interposés entre Américains, Iraniens, Turcs, Saoudiens et autres. Donc, Je reviens sur cette histoire particulière de l'Irak et notamment sur le fait que quand j'ai commencé mes études sur l'histoire de l'État irakien, j'étais le seul à qualifier l'État irakien d'État confessionnel sunnite. Et je me souviens que c'était dans les années 70, mes interlocuteurs irakiens, qu'ils soient proches du régime ou de l'opposition au régime de Saddam Hussein, n'aimaient pas tellement qu'un étranger vienne qualifier confessionnellement telle ou telle institution, leur État, puisqu'ils avaient l'impression que c'était de ma part une remise en cause de l'identité irakienne. Et pourtant, il faut quand même revenir sur l'histoire moderne de l'Irak et voir que cette histoire se conjugue non pas à travers un nationalisme arabe qui était inconnu en Irak, à la différence du Levant, non pas à travers un nationalisme irakien qui n'avait aucun passé pour le légitimer, mais à travers des histoires communautaires différentes. Donc je vais laisser de côté la communauté kurde pour me focaliser sur les histoires confessionnelles différentes entre sunnites et chiites. Et je reviens au moment de la dislocation, du démembrement de l'Empire ottoman, puisque nous avons là, pour la énième fois, la manifestation de choix politiques opposés suivant qu'on est d'une communauté confessionnelle ou d'une autre. C'est une chose qui n'est pas très connue parce que l'Irak, du fait de sa majorité chiite, a souvent été marginalisé dans le monde arabe. Mais les seuls qui ont répondu en Irak à l'appel au djihad du sultan calife ottoman, ce ne sont pas les sunnites, mais les chiites. Les chiites avaient pris la tête depuis déjà plus d'un siècle de la lutte contre la mainmise des pays européens sur les terres d'islam, contre les Russes et les Britanniques en particulier, et les Italiens en Tripolitaine, en 1911, et donc ils ont vu dans les jeunes Turcs, puisque eux ne disposaient pas d'État à leur disposition à proprement parler, ils ont vu dans les jeunes Turcs une force militaire susceptible d'arrêter ou de ralentir l'avancée des forces britanniques qui avaient débarqué à Fao sur le golfe arabo-persique en 1914. Et on va voir donc une alliance militaire entre les jeunes Turcs, qui pourtant n'avaient pas bonne presse chez les tribus arabes du fait de leur brutalité, de leur nationalisme. Mais on va mesurer l'influence énorme des grands ayatollahs de Najaf et de Kerbela au fait qu'ils vont réussir à former une armée de moudjahidines chiites qui va venir seconder l'armée turque contre les Britanniques. Et ça va être au point que lors d'une bataille en 1916, près de Bassora, la bataille de Shuaïba, l'armée chiite, composée de combattants tribaux, mal disciplinés et mal armés pour la plupart, vont être quatre fois plus nombreux que l'armée ottomane qu'ils étaient censés venir soutenir. Donc, comme vous le savez, le djihad sera un échec, mais il faut savoir qu'au même moment, l'establishment sunnite, qui était le relais traditionnel de l'État ottoman en Irak et qui était constitué de chefs de confréries soufis, de militaires, d'effendi, comme on disait en Irak, c'est-à-dire d'administrateurs, avaient très bien senti que le vent allait tourner et qu'ils devaient surtout préserver leurs propres privilèges dans un pays qu'ils avaient toujours dominé. Et ils vont passer sans coup férir lorsqu'ils vont voir que tout retour à l'absolutisme d'Abdelhamid, qu'ils avaient soutenu contre les jeunes turcs, était acté, ils vont prendre contact avec les Anglais, et certains d'entre eux à travers la révolte arabe de Faisal, donc en Syrie au Liban, ou des officiers irakiens à laquelle les officiers irakiens avaient participé. Mais on va voir très clairement donc ce paradoxe d'une communauté chiite solidaire des jeunes turcs et d'une communauté sunnite qui, ayant fait son deuil du pouvoir ottoman, va rechercher une place avec le nouveau maître du pays, à savoir les Britanniques, et les Britanniques qui étaient à l'époque l'Empire britannique des Indes. Hein, l'Irak dépendait des Indes jusqu'en 1920, et les Britanniques des Indes étaient partisans non pas d'un État local, mais d'un contrôle direct, d'un contrôle militaire direct par l'armée britannique. Donc on va voir le début d'une connivence entre la communauté arabe sunnite d'Irak et les Britanniques, qui va être mise à mal à partir de 1919-1920, lorsque il va s'avérer que les Britanniques, en tout cas ceux des Indes, se sentaient incapables de contrôler le pays à travers un contrôle militaire direct, et ils vont donc s'en remettre au Caire, au bureau arabe du Caire et aux thèses du Caire de fondation du indirect rule, c'est-à-dire de la fondation d'institutions locales à visage arabe ou à façade arabe. Et cela était directement lié à la politique de la Société des Nations, donc cette communauté internationale récemment apparue donc, et officialisée en 1920, qui voulait promouvoir donc, là aussi la nation comme légitimité des États-nations que la puissance mandataire devait conduire sur la voie de l'indépendance. Et donc on va voir une communauté sunnite hésiter entre un mouvement patriotique de Bagdad et les projets chérifiens qui étaient des projets patronnés par les Britanniques en Irak. On va voir cette hésitation notamment en 1920 où il y aura un rapprochement entre sunnites et chiites qui fait rêver aujourd'hui quand on connaît l'état de polarisation des deux communautés. Mais dans le projet mandataire que les Anglais donc tentaient de faire avaliser par les Irakiens, il y a eu une opposition des deux communautés, enfin de la communauté chiite frontalement et d'une partie de la communauté sunnite, qui va aboutir à des formes de manifestations qui sont restées célèbres comme des manifestations patriotiques irakiennes, où l'on a vu chacune des deux communautés prendre en charge les rituels de l'autre communauté. C'est-à-dire, on a vu des chiites prendre en charge l'organisation de Mawlid al-Nabi, qui est donc la manifestation qui a été considérée comme la manifestation sunnite la plus importante, et des sunnites donc se flageller au moment de Ashura. Bon, évidemment, ce sont des choses qu'on fait répéter 3-4 fois quand on voit aujourd'hui l'état des relations entre les deux communautés. Mais malgré tout, il va y avoir en 1920, donc sous l'influence des grandes puissances et de cette communauté internationale qui reflétait les rapports de force entre les grandes puissances, imposition du mandat. Et cette imposition du mandat va susciter un mouvement qui est considéré comme l'un des rares mouvements fédérateurs de l'Irak moderne et dont on commémore cette année le centenaire, la révolution de 1920, Thawrat al-Ashrin. L'année 2020 est jalonnée de commémoration et c'était un mouvement essentiellement chiite, dirigé par les oulémas chiites qui avaient accueilli à Najaf et à Karbala un gouvernement révolutionnaire islamique où les membres du mouvement patriotique de Bagdad étaient venus se réfugier. Ce qui montrait bien que la partie anti-britannique du mouvement patriotique de Bagdad sunnite acceptait la prééminence des chiites. Mais ils étaient minoritaires et on le voit très bien au divorce qui va s'effectuer entre les partis politiques patriotiques ou nationalistes, puisque un parti comme El Ahd, par exemple, le parti Le Serment qui rassemblait des officiers chérifiens, ne prendra aucunement part à la révolution de 1920. Là où le parti Haras al-Istiklal, qui rassemblait une majorité chiite, va relayer donc les fatwas des grands oulémas pour soulever le pays avec les mots d'ordre donc, de refus du mandat et un appel à la formation, l'État ottoman n'étant plus en place, d'un État irakien, arabe et musulman, très important, et c'était une grande différence entre les sunnites et les chiites, constitutionnels, hein, puisque l'establishment sunnite était très hostile au constitutionnalisme et donc aux jeunes turcs, là où il y avait une connivence intellectuelle entre constitutionnalistes iraniens et jeunes turcs. Et on sait que le clergé chiite a intégré l'idée du constitutionnalisme dans le fiqh, dans la théologie musulmane, avec donc pour roi un des enfants du shérif Hussein de la Mecque qui pourrait être le roi Faisal. Mais il y avait une condition à cette acceptation de Faisal, c'était qu'il renonce à tout lien de dépendance entre l'Irak et la Grande-Bretagne. Or, on sait ce qu'il est parmi ces liens, il y avait donc le mandat. On sait que la révolution de 1920 a été vaincue. Ça a été avec le djihad de 1914-1918, l'un des mouvements les plus meurtriers contre un impérialisme occidental, mais qui est presque inconnu dans le reste du monde arabe pour les raisons que j'ai évoquées. Et à partir de 1920, donc, il va y avoir un combat pied à pied de la direction religieuse chiite contre la mise en place des institutions de l'État irakien. Ça va être notamment le cas en 1922 par des fatwas interdisant aux musulmans de participer à toute élection sous régime d'occupation étrangère et donc sous peine donc, d'excommunication. Et mettant Faisal en demeure de refuser tout traité anglo-irakien sous peine de retrait de l'allégeance des chiites, non seulement à Faisal, mais aux institutions irakiennes. Comme vous le savez probablement, les Britanniques ont engagé la force contre ce mouvement qui interdisait toute élection, et, y compris d'une assemblée constituante, et ils ont cru pouvoir résoudre la question, ni plus ni moins, en exilant vers l'Iran les principales autorités religieuses chiites. 1923, les trois grands ayatollahs, Sheikh Shari'a Isfahani, Mohamed Hussein Naini, qui est un des héros du constitutionnalisme religieux, et Cheikh Mehdi Khalesi vont être envoyés en Iran, à Qom pour certains, à Mashhad pour d'autres. Et c'est en leur absence que l'Assemblée constituante irakienne va être formée et le traité anglo-irakien qui liait l'Irak à la Grande-Bretagne bien au-delà de la fin du mandat va être ratifié par l'Assemblée constituante. Donc c'est la fin du mouvement religieux chiite, vaincu militairement, et la plupart des ayatollahs rentreront en Irak après la promesse de ne plus interférer dans les affaires politiques, et le seul qui restera en exil en Iran, le Cheikh Mehdi Khalesi, mourra en exil, donc à Mashhad. Et à partir de là, se pose la question, quel était le type de système mis en place et pourquoi l'ai-je qualifié de confessionnalisme, puisque il n'y a pas une seule mention des mots sunnites et chiites dans la constitution de 1924. Il faut aller chercher très loin, notamment dans le code de la nationalité, pour voir qu'il y avait des discriminations qui sont des discriminations qui vont perdurer jusqu'à la fin du régime de Saddam Hussein, puisqu'il y avait une nouvelle nationalité, la nationalité irakienne, et il fallait donc avoir des papiers prouvant qu'on était irakien. Ceux qui avaient eu la nationalité ottomane liée au sunnisme, donc les sunnites, avaient des papiers irakiens et on leur donnait des certificats de nationalité immédiatement. Ceux qui avaient une nationalité iranienne, c'est-à-dire la direction religieuse chiite, hein, qui était majoritairement iranienne, mais pas seulement, il y avait aussi beaucoup de tribus arabes le long de la frontière ottomano-persane, où pour éviter à la conscription militaire et aux impôts, beaucoup de tribus avaient la nationalité iranienne. Donc ceux-là devaient demander la nationalité irakienne et beaucoup se sont vus refuser la nationalité irakienne, donc ils ont été des apatrides dans leur propre pays. Enfin, pour 80% de la population, c'était des membres des tribus qui vivaient complètement en dehors de l'espace citadin et qui n'avaient même pas une notion de ce que pouvait signifier une citoyenneté, ni une nationalité, ni des papiers d'identité. On était membre d'une tribu, de telle confédération tribale, on était arabe, chiite, on avait tel dirigeant, tel cheikh, et on reconnaissait les grands ayatollahs des villes saintes comme les dirigeants temporels et spirituels, et on ne voyait pas pourquoi on aurait demandé les papiers d'une nationalité dont on ne reconnaissait pas la légitimité. La légitimité ottomane était liée à un sunnisme qui ne reconnaissait pas donc les chiites, et ça fonctionnait parce que le pays chiite vivait très largement sa propre vie en dehors du contrôle des villes. On sortait de Bagdad et l'armée faisait des excursions meurtrières, mais aussitôt rentrer dans ses casernes, le pays tribal se refermait derrière l'armée et reprenait donc ses us et coutumes. Donc pour cela, 80% de la population aux trois quarts chiites, ils ont été au fil du temps assimilés aux citoyens de rattachement iranien, si bien que ça a accrédité l'idée que les chiites n'étaient pas de vrais Irakiens, pas de vrais Arabes, et avec une accusation récurrente dans le discours anti-chiite des sunnites, une accusation de Shu'ubiyya. Shu'ubiyya, c'est l'accusation traditionnelle qu'ont les sunnites arabes pour accuser ceux qui semblent dénier la primauté des Arabes en islam. Donc c'était une façon de dire les chiites sont une cinquième colonne iranienne en islam, donc ça vaut pour les chiites du Liban, ça vaut pour les chiites de Bahreïn, les chiites du Hassad, d'Arabie, de la future Arabie saoudite, et évidemment pour les chiites d'Irak. Donc s'ouvre à partir de la fin des années 20 une période que j'appelle la période des illusions nationales. Le mouvement religieux est vaincu, il entame une traversée du désert avec un apolitisme vigilant parce qu'il se savait menacé, et on va voir l'éclosion de partis laïcs. Les deux plus importants sont le Parti communiste et le Parti Baas. Le Parti communiste est né dans les années 30 et le Parti Baas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux partis qui ont revendiqué une forme de laïcité, d'ailleurs surtout explicitement pour le Baas, les communistes étant davantage marqué par l'affirmation d'une forme d'athéisme. Mais l'idée, c'était celle-ci. C'était de dire qu'il y a de graves discriminations sociales en Irak qui sont liées à l'appartenance confessionnelle. Les chiites sont exclus de toute carrière politique et militaire. Et Faisal, qui avait bien compris qu'il n'y avait pas de nation irakienne, avait cette formule, l'armée est la colonne vertébrale de la nation, surtout une armée où il ne se passait pas une semaine sans qu'elle attaque telle ou telle communauté. Aucune communauté en Irak n'est sortie indemne de la répression, qu'il s'agisse des chiites, des kurdes, des yézidis, des assyriens. Chaque communauté a eu à son tour, à tour de rôle, à souffrir d'une armée qui défendait un État dans lequel personne ne se reconnaissait, sauf une minorité, une élite issue donc de la communauté arabe sunnite. Et donc, comme le mouvement religieux chiite était vaincu, l'idée s'est instaurée qu'il était possible, grâce à la réforme sociale ou grâce au nationalisme arabe, de résoudre ces inégalités. Ça a été le discours du Parti communiste. On ne parle plus de sunnites et de chiites, mais de travailleurs et de landlords, de propriétaires terriens. Et on va essayer de résoudre la question confessionnelle par la voie d'une réforme sociale ou d'une révolution sociale. Même chose chez les bassistes, qui, au nom d'un arabisme qui n'était d'ailleurs pas assumé, puisqu'ils ont fait échouer toute tentative d'union arabe avec la Syrie et avec l'Égypte. C'était plutôt un exercice de propagande pour faire oublier leur caractère minoritaire en Irak. Mais toujours est-il que voilà l'idée selon laquelle la religion appartenait au passé et il fallait désormais avoir affaire à des idéologies sécularisées s'instaurait. Sauf que on a vu très vite que la question confessionnelle s'est vite rappelée au souvenir des partis sécularisés ou laïcisants, puisque le Parti communiste s'est peu à peu identifié au chiisme, au point qu'on a des photographies d'une marée humaine à Najaf et à Karbala avec des drapeaux rouges. Et quand on regarde bien, on se dit que ce sont des drapeaux rouges de l'imam Hussein. Et non, tiens, il y a des croix, des faucilles et des marteaux. Donc, c'était des manifestations communistes, puisque les propres enfants des grands ayatollahs étaient passés au Parti communiste. Et d'ailleurs, on peut voir que dans la biographie de beaucoup de dirigeants islamistes chiites irakiens, beaucoup ont eu un passé communiste. Et le moindre d'entre eux n'est pas Adel Abdel Mahdi, l'ex-premier ministre qui a été en exil en France, que j'ai très bien connu. Et quand je l'ai connu, il était maoïste. Et sa femme n'était pas, on ne disait pas végane à l'époque, mais évidemment, elle n'était pas voilée et elle faisait très attention à son alimentation. Elle ne mangeait pas de viande, elle était contre la souffrance des animaux, etc. Donc on voit le chemin parcouru. Et beaucoup de membres du parti d'Arwa sont d'anciens communistes qui sont revenus je dirais, pas à la religion, mais à une idéologie religieuse. Donc le Parti communiste s'est identifié au chiisme au point qu'ils utilisaient la proximité des mots shiai, shuyuai. Shuyuai voulant dire communiste en arabe. Et on faisait valoir pour attirer les chiites, les paysans chiites, la proximité du chiisme et du communisme en disant le chiisme et le communisme ont les mêmes objectifs. Il est interdit d'accepter l'injustice sociale, il est interdit d'accepter la tyrannie, nos emblèmes sont les mêmes et l'imam Hussein était le premier des communistes. Donc il y a eu une véritable osmose au point qu'on a, présenté le communisme comme une version moderne et sécularisée du chiisme. Et ça a été la même chose pour le Parti Basse. Le Parti Basse, on a tendance à l'oublier, a été fondé par des chiites en Irak et il a établi en son sein un équilibre entre les deux communautés. Mais il y a eu donc une radicalisation qui est liée à la chute du premier régime républicain. Ce que j'ai présenté, ce régime de la monarchie hachémite, s'est terminé en 1958 avec l'instauration d'un régime qui, pour la première fois, s'adressait aux exclus de l'ancien système. Et on sait que le général Qassem, qui s'était adressé à ces exclus, manifestait le fait que, finalement, au-delà des partis politiques, il y avait bien des enjeux communautaires. Qassem tournait le dos aux nationalistes arabes, notamment aux bassistes et aux nassériens. C'est la période de 1958 à 1963. Et il s'adressait essentiellement aux communistes et aux Kurdes, donc 75% de la population qui avait été exclue du pouvoir politique et de la carrière militaire, en tout cas en tant que chiite et en tant que kurde. Et en 1963, il va y avoir un coup d'État bassiste, le premier État bassiste, qui va être une véritable révélation pour les bassistes chiites, puisqu'on va très bien voir une confessionnalisation qui ne s'était pas manifestée comme cela depuis le début des années 20. On va voir des milices bassistes prendre d'assaut les quartiers communistes de Bagdad avec des mots d'ordre très clairement confessionnalistes, et notamment l'un d'entre eux, Mnelium, à partir d'aujourd'hui, la Shiaï ou la Shuyaï ou la Sharagwa, ni chiite, ni communiste, ni Sharagwa, ces orientaux originaires de la province du Tigre, qui constituaient l'essentiel de la population de Madinat Sadr, Madinat Thaoura, comme on l'appelait à l'époque. Et à partir de là, il va y avoir une confessionnalisation des partis laïques. La représentation chiite va s'effondrer au sein du parti basque, qui va désormais symboliser un parti confessionnel sunnite, avec seulement 2 ou 3% de chiites. Et les communistes vont être assimilés au chiisme, avec pour le Parti communiste un autre acteur qui va s'avérer aussi dangereux que l'ennemi confessionnel, c'est le renouveau du mouvement religieux. À partir de la fin des années 50, on va voir dans les villes saintes d'Irak un mouvement religieux animé par des jeunes oulémas qui n'avaient pas un statut de mujtahid, mais dont le plus célèbre d'entre eux et Mohamed Bakr al-Sadr, assassiné par le régime de Saddam Hussein en 1980, et qui va relever le défi communiste en milieu chiite. Et les communistes vont être pris entre le feu du confessionnalisme sunnite d'un côté et d'une renaissance chiite de l'autre côté. Si bien qu'ils vont peu à peu s'affaiblir jusqu'à disparaître, hein, quasiment, et laisser la place à un mouvement religieux renaissant qui va être le mouvement qui va accueillir l'imam Khomeini lorsque celui-ci, dans les années 60, va venir se réfugier à Najaf et va préparer la révolution islamique d'Iran à partir d'Irak. Il va y avoir une pépinière de tous les mouvements islamistes, aussi bien le Hezbollah au Liban que les mouvements islamistes de Bahreïn, du Hassa en Arabie Saoudite et évidemment d'Irak. Et on va voir au moment de la révolution islamique la confirmation du fait que le clergé chiite dans son ensemble était engagé dans une campagne d'émancipation des communautés chiites du monde arabe. Communautés chiites qui vivaient en Irak, au Liban, à Bahreïn et dans le Hassa, et qui avaient pour point commun d'être des communautés dominées socialement, même s'il y avait une bourgeoisie riche, mais en tout cas l'essentiel était constitué de paysans pauvres et exclus du pouvoir politique et de la carrière militaire qui était la véritable source du pouvoir. Et donc il va y avoir à la fin des années 70, avec sous le régime bassiste, le second régime bassiste et celui de Saddam Hussein, une première guerre confessionnelle larvée entre sunnites et chiites qui va aboutir, comme vous le savez, à l'extension au-delà des frontières de la guerre confessionnelle interne à l'Irak avec la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak est une guerre confessionnelle qui a été considérée par le régime de Saddam Hussein comme le seul moyen de sauver un régime qui était de plus en plus minoritaire et qui s'était minorisé, y compris au sein de la communauté arabe sunnite, où de nombreux membres proches des Takhritis étaient à leur tour, et même au sein des Takhritis étaient à leur tour évincés et visés par la répression. Et à partir de là, il va y avoir un engrenage, je vais aller vite, sur lequel je ne reviendrai pas, mais un engrenage de guerre confessionnelle, donc guerre Iran-Irak, qui laisse l'Irak divisé avec une participation très importante de combattants chiites irakiens du côté iranien. Là, pour ceux, enfin, c'est pas le moment actuellement, mais pour ceux qui vont en Iran, je vous conseille toujours d'aller visiter le musée de Behesht Zahra à Téhéran, où on voit que sur des kilomètres, il y a des tombes de martyrs nés en Irak et irakiens morts pour la défense de la révolution islamique, donc qui vont à l'encontre du discours selon lequel les chiites irakiens auraient été loyaux envers un régime qui leur faisait peur et envers lequel ils n'avaient aucune loyauté. Et la meilleure preuve en est qu'aussitôt la guerre terminée, il y a eu en 1991 l'intifada de février et mars qui a vu se soulever 15 des 18 provinces irakiennes et notamment des chiites, où l'armée irakienne a pour la première fois en Irak utilisé massivement l'arme chimique au vu et au su des alliés qui n'ont absolument pas protesté, puisque le plan des alliés c'était de continuer à traiter avec un régime de Saddam Hussein affaibli mais toujours en place, avec tout un système de sanctions internationales qui mettait le pétrole irakien sous la tutelle internationale. Donc on sait que on connaît la suite, les attentats du 11 septembre ont changé la donne et ont fait considérer par des acteurs américains, notamment influencés par les sectes évangéliques, qu'il fallait se débarrasser d'un régime qui pourtant avait beaucoup servi les pays occidentaux, notamment pour contenir la révolution islamique iranienne, et qu'il fallait donc rendre responsable en l'accusant de choses qui se sont révélées mensongères les unes après les autres, le régime de Saddam Hussein, de toutes les tares. C'est 2003, c'est l'invasion de l'Irak par l'armée américaine en dehors de toute l'égalité internationale. Et ce que n'avaient pas prévu les Américains, c'est que la chute du régime de Saddam Hussein engageait également la chute d'un État. J'étais à Bagdad à l'époque et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que ça donne le vertige. On est habitué à vivre sous le régime d'un État et c'est vrai de sentir qu'il n'y a plus aucune légalité, mais il y a un chaos généralisé. L'armée irakienne n'existait plus, c'était l'anarchie totale et la loi du plus fort. Et les Américains n'avaient absolument pas anticipé cela. Ils avaient cru pouvoir recycler le système bassiste, mais sans Saddam Hussein. Et c'est donc la mort dans l'âme qu'ils ont vu la nécessité de reconstruire un État dans l'urgence, et pour cela de s'adresser, eh bien, à qui ? Aux exclus de l'ancien système. Et les exclus de l'ancien système, bon, les Kurdes, il n'y avait pas trop de problèmes parce qu'ils étaient en lien à travers l'opposition au régime de Saddam avec les Américains depuis longtemps, mais devoir traiter avec des enturbanés tout juste rentrés d'Iran, ça n'était pas un plaisir pour les Américains, et pourtant il n'y avait pas d'autre choix, puisque l'Irak était au bord du chaos généralisé et que les Américains devaient trouver des alliés pour pouvoir éviter donc d'être y compris vaincus militairement, puisque Al-Qaïda et Muqtada Sadr faisaient menacer la permanence, la possibilité pour les Américains de rester en Irak. Donc nouvel État, mais à nouveau, et là c'est directement lié, comme je l'ai dit pour les Britanniques, à la présence étrangère, basé sur le principe du communautarisme politique à travers une vision dévoyée du fédéralisme qui va être officialisé en 2005 à travers la constitution de 2005. Donc quand vous, à la différence du Liban, le confessionnalisme politique est occulte et inavoué, et on vous parle, bon, au Liban on sait que voilà, le président de la République doit être chrétien, le premier ministre sunnite, etc. C'est la même chose en Irak. Le président de la République doit être kurde, le président du Parlement doit être chiite, et le doit être sunnite, et le président du Parlement, le plus puissant, doit être chiite. Mais il n'y a ni pacte national comme au Liban, ni révisé par un accord de Taif. Non, on invoque seulement la tradition. La tradition, mais la réalité est exactement la même qu'au Liban. Et pour illustrer ce que je dis, je me souviens qu'en 2003, il y avait une sorte de panique au niveau américain pour trouver des interlocuteurs. Donc j'avais été sollicité du fait de ma proximité de l'opposition au régime de Saddam Hussein. Et on m'avait demandé d'identifier un certain nombre de gens. Donc j'avais dit un tel est proche du Parti communiste, un tel est bassiste dissident, plutôt pro-syrien, un tel est nationaliste arabe, nassérien, etc. Et je voyais que ça n'intéressait absolument personne. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait savoir. Ce qu'il voulait savoir, oui, mais alors, est-ce qu'il est chiite ou sunnite ? C'était ce qui est l'unique chose qui intéressait, l'appartenance communautaire. Et donc ensuite, le système s'est reconstruit avec pour effet pervers, deux effets pervers. Le fait que dans un tel système, il y a toujours des exclus. Et là, les exclus, c'était ceux qui avaient bénéficié du monopole du pouvoir depuis toujours, à savoir les Arabes sunnites. Et le deuxième effet pervers, c'est que, paradoxalement, il est beaucoup plus facile pour une puissance étrangère de dominer un pays à travers une minorité qui est malléable parce qu'elle se sait minoritaire, qu'à travers des majorités. On l'a vu avec les chiites, qui n'hésitent pas à se diviser. Bon, on le voit aujourd'hui. Le système fondé par les Britanniques a mis un peu plus de 80 années à s'effondrer. le système fondé parrainé par les Britanniques, par les Américains et par les Iraniens, a mis beaucoup moins de temps à s'effondrer. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, donc à l'échec du confessionnalisme politique, du fait de l'émergence d'un nouvel acteur qui n'existait pas avant, à savoir les sociétés civiles. Les sociétés civiles qui vivent une situation que je qualifierais de kafkaïenne, puisque c'est quelque chose d'irréversible. Depuis 2011, elles ne vont pas rentrer dans leur boîte, mais dans le système actuel, il n'y a aucun débouché politique. On le voit très bien à travers la façon démagogique dont les différents dirigeants reprennent une à une les revendications de la contestation, mais sans aller jamais jusqu'au bout, puisque aller jusqu'au bout, ce serait renoncer à leur propre pouvoir. Et la lutte contre la corruption est impossible, par exemple, et on ne renonce pas à ses privilèges facilement. Donc c'est un système qui n'est pas réformable. Ce qui est tragique, c'est que c'est un système qui a une capacité de phagocyter tous les acteurs politiques et religieux, et c'est, je terminerai là-dessus, ce qui me rend particulièrement pessimiste, c'est le fait que quand vous regardez les manifestations des contestataires, ça n'est incarné par personne. Il n'y a personne pour représenter un mouvement qui n'a pas de leader. Et j'avais assisté à des manifestations où on voyait tous les ministres avec des photos barrées. Puis à un moment, il y avait celle de Sistani, l'ayatollah Sistani, qui a béni, quoi qu'il en dise, le système qui fait faillite aujourd'hui. Et puis les gens ont hésité. Puis d'un seul coup, hop, ils l'ont barré aussi. Donc ça voulait dire qu'il ne restait plus personne. Et la seule personnalité susceptible d'incarner, qui avait tenté d'incarner le parrainage de la contestation, Muqtada Sadr, est lui-même dépendant d'une majorité au Parlement qui l'a prévenu qu'elle lui retirerait son soutien s'il appelait au renouvellement du système politique. Donc, on a une situation sans issue où les manifestations vont continuer avec le cortège de mort qui est lié, et en même temps avec l'incapacité des principaux acteurs politiques et religieux de faire quoi que ce soit, puisqu'ils sont tous impliqués dans le système. Et la dernière chose, je terminerai là-dessus, c'est une chose que j'ai remarquée, c'est l'avenir de la religion en Irak. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une idéologisation de la religion qui est due au fait que la sécularisation, contrairement à la France notamment, n'a pas accompagné la laïcisation, mais s'est transformée en islamisme, en idéologie anti-occidentale islamique. Et comme les partis religieux ont été tous déconsidérés, sont vomis par l'ensemble, surtout de la communauté chiite, et que les autorités religieuses ne sortent pas indemnes de cela, il y a des mots d'ordre, on se dit, mais comment des chiites peuvent insulter comme ça la marjaïa des grands ayatollahs pour lesquels ils avaient le plus grand respect jusqu'à maintenant. Donc il y a un état de non-retour qui illustre une sécularisation qu'on n'avait pas vue au grand jour, parce qu'on voyait des partis islamistes au devant de la scène qui masquaient cette sécularisation, mais qui fait penser que s'il y a un avenir prévisible, il ne peut venir que de partis non religieux et de partis laïcs ou laïcisants, quel que soit le mot utilisé. Voilà, je vous remercie.